Les sept vies de Serge Reggiani par Olivier Ninge. Accompagnement musical Marc Evéa et Clément Péfer. C'est une émission produite par atoutboutdechamp.com.
La vie c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de mâcher. Et puis ça se gâte soudain. Ça vous fait mal. Et on y tient. Et on la soigne. Et les soucis. Et pour qu'on soit vraiment guéri. Il faut vous l'arracher, la vie.
Olivier Ninge, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre « La vie, c'est comme une dent ».
Ah oui, très beau texte de Boris Vian, très évocateur, mais qui permet d'introduire notre émission « Les sept vies de Serge Reggiani ».
Je rappelle que vous êtes psychologue et formateur. Par ailleurs, vous êtes passionné par la chanson française et vous participez depuis plusieurs années à des spectacles musicaux en tant qu'acteur-chanteur.
Oui, et j'ai eu le plaisir de créer un spectacle musical théâtralisé qui nous intéresse particulièrement ici, puisqu'il est intitulé « Hommage à Serge Reggiani, un comédien qui chante ».
Pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur ce spectacle, je leur conseille d'aller voir sur le site www.atoutboutdechamp.com. En minuscule et tout attaché.com. Olivier Ninge, je vous propose de continuer l'exploration des sept vies de Serge Reggiani.
Bien volontiers. Je rappelle que Serge est né le 2 mai 1922 à Reggio d'Emili. Il est issu d'un milieu plutôt modeste, avec des parents, tous les deux coiffeurs.
Sa première vie donc fut une enfance italienne.
Oui, et à une époque de crise économique et sociale. Et pour fuir le fascisme de Mussolini, il doit quitter l'Italie pour la France à l'âge de 8 ans. Et là, il commence sa deuxième vie, celle d'un émigrant dans les années 1930, confronté à la xénophobie.
En fait, il arrive en Normandie.
Eh oui, ses parents l'inscrivent à l'école communale. Et à la rentrée, ça se passe plutôt mal. Il est le sale étranger, le macaroni, on se moque de son accent. Mais il finira par maîtriser le français mieux que la plupart des enfants de son âge.
Finalement, la famille Reggiani ne restera pas très longtemps en Normandie.
Ben non, au bout de quelques mois, la famille quitte Yvetot pour Paris, où Ferruccio, le père de Serge, va pouvoir enfin ouvrir un salon de coiffure au Faubourg Saint-Denis.
Pour le jeune garçon Serge, c'est plutôt une bonne période ?
Oui, c'est l'adolescence. Il s'adonne au sport et se passionne pour la lecture. Mais il ne s'attarde pas vraiment aux choses scolaires. Alors, il quitte l'école pour se diriger vers un apprentissage. Alors, pourquoi pas la coiffure ? Il baigne dans ce milieu depuis sa naissance.
Donc, sa troisième vie, c'est celle d'apprenti coiffeur.
Tout à fait. Et il se rend compte très vite que devenir coiffeur n'est pas sa vocation. En plus, il trouve qu'il ne gagne pas assez d'argent. Alors, pour compléter, il commence à faire de la figuration au théâtre Mogador, puis au théâtre du Châtelet.
Oui, c'est une bonne piste pour arrondir les fins de semaine.
Oui, bien sûr. Et ayant pris goût à ce métier de comédien, il réussit à entrer au Conservatoire des Arts Cinématographiques de Paris. Et moins d'une année plus tard, il obtient deux premiers prix d'interprétation et sort premier. Et en 1939, il s'inscrit au Conservatoire National d'Art Dramatique, où il va apprendre son métier sous la houlette d'André Bruno, à qui il dira « Mais vous m'avez appris à être et non à jouer, et à faire naître la vie à partir de rien. » Bien évidemment, dans ce haut lieu d'enseignement, Serge approfondira les bases du métier de comédien en se confrontant aux grandes œuvres classiques. Et là, il obtiendra deux seconds prix, celui de comédie et celui de tragédie. C'est aussi là qu'il a rencontré ses amis fidèles comme Roger Pigault, avec qui il tournera plus tard, puis Gilbert Trigano, que tout le monde connaît pour le club Méditerranée. Donc Gilbert, lui, prendra une autre direction que le théâtre. Le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne après l'invasion de la Pologne. Alors, il ne se passe rien pendant près de 8 mois. C'est ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Et puis le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit la Belgique, les Pays-Bas et la France. Et c'est la débâcle. 8 à 10 millions de civils mélangés aux colonnes de soldats en retraite se retrouvent sur les routes. Des habitants des villes se réfugient temporairement dans leur famille ou chez des connaissances, des amis. D'autres s'enfuient dans les régions du sud. Serge, lui, cherchera à fuir vers l'Espagne. Il fera un petit passage par l'Andorre, puis remonte et se planque quelque temps chez des paysans près de La Châtre, une commune française située dans le département de l'Indre, en région Centre-Val-de-Loire. Finalement, il remonte à Paris et cherche du boulot pour survivre et éviter le STO.
Peut-être il faut préciser à nos auditeurs ce qu'était le STO.
C'était le service du travail obligatoire. Durant l'occupation de la France, l'Allemagne nazie imposa au gouvernement de Vichy la réquisition et le transfert vers l'Allemagne de centaines de milliers de travailleurs français, contre leur gré bien sûr, afin de participer à l'effort de guerre allemand.
Oui, ça me rappelle Georges Brassens qui, à la même époque, se cachait chez la Jeanne.
Exactement. Et en même temps, il fallait bosser pour manger. Alors, il trouve des petits rôles. Puis, en 1941... il joue dans Le Loup-garou de Vitrac, puis dans Britannicus auprès de Jean Marais, avec lequel il sympathise. C'est sans doute pour ça que Jean Marais suggère à Jean Cocteau de proposer à Serge le rôle de Michel dans Les Parents terribles. Serge racontera plus tard: je lui ai dit, c'est pas un rôle pour moi, monsieur Cocteau. Et Cocteau lui a répondu: du moment que tu le joues, c'est un rôle pour toi. Serge de conclure, ce jour-là, j'ai tout compris. Et toujours pour survivre, il va lire des poèmes dans le cabaret d'Agnès Capri. Belle expérience complémentaire à sa formation de comédien. D'ailleurs, c'est dans ce cabaret qu'il rencontrera Léon Smet, un artiste belge.
Smet, ce nom me dit quelque chose.
Eh oui, c'est le père d'un certain Jean-Philippe Smet, qui appelle Serge des années plus tard pour lui demander un service.
Un service?
Il lui dit, j'ai un fils qui est à Paris, là, tu vois, il joue de la guitare, est-ce que tu peux t'occuper de lui? Serge savait faire des enfants, vu qu'il en a eu 5, mais en revanche, il ne savait pas toujours comment faire avec eux. Alors, il ne voyait pas comment s'occuper de ce jeune garçon. Il répondit à son ami qu'il était déjà très occupé, qu'il n'avait pas de relation avec le milieu du music hall, etc. Bref, qu'il ne pouvait rien faire pour lui.
Oui, pas très généreux vis-à-vis de son ami.
Oui, et en même temps, pas très étonnant quand on pense aux relations qu'il a eues avec son propre père et à l'attitude des pères de cette génération, à commencer par Léon Smet par rapport à son fils. En tout cas, rassurez-vous, ce refus n'a pas empêché le jeune Jean-Philippe Smet de réussir dans la vie, puisque, vous l'avez compris, nous parlons de Johnny Hallyday. En 1942 arrive un nouvel événement qui va présager une entrée dans sa 5e vie.
Oui, là vous m'intriguez, c'est quelle nouvelle vie?
Il s'agit d'une première vraie rencontre avec le cinéma en tournant dans Le Voyageur de la Toussaint de Louis Daquin. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il fait connaissance avec une jeune figurante, une certaine Simone Signoret.
Pourquoi première vraie rencontre?
Parce qu'avant, il avait fait de la figuration, comme dans Les Disparus de Saint-Agile, par exemple, de Christian Jacques. Mais là, il obtient le rôle de Bob, une petite frappe. Et l'année d'après, il va obtenir son premier grand rôle dans Le Carrefour des Enfants Perdus de Léo Johannon. Il y joue Joris, un adolescent, plutôt chef de bande, dans une maison d'enfants d'un genre nouveau, un peu plus humain, je dirais, que les maisons de correction de l'époque. Et il rencontre la comédienne Jeannine Darcé. Alors, avec elle, c'est bien simple. Ébloui par sa beauté, il ne savait pas comment l'aborder. Alors, vous savez pas ce qu'il a fait? Chaque jour, il lui dégonflait les pneus de son vélo. Mmh. Puis il arrivait en sauveur pour les regonfler. C'est comme ça qu'elle est tombée dans ses filets. Ils ont commencé leur vie de couple. Mais c'était difficile. Hein. Tout aurait pu sauter, c'était la guerre. Mmh. Et tout aurait pu s'arrêter là. Tout aurait pu sauter comme dans la chanson de, vous savez, la chanson de Pierre Tisseron.
Je vous propose d'en écouter une version tirée de votre spectacle, hommage à Serge Reggiani, un comédien qui chante.
V'là 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me tranche net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivit un shampoing haut bichromate de potasse, puis on noie une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pithecanthropus Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud lapin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur la vue d'un petit os ou d'une prémolaire, comprirent que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin qui assommait bison au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Callipyge aux tétons comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte, ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux, que j'étais couvert de poils, que j'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonnes manières. Tous les dimanches matins, je jouais au tiercé, je portais des cols durs et des bandages hernières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté, c'était voilà maintenant, bien 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, y a plus de retombées. Eh oui, c'était la guerre et dans un premier temps, il amène Jeannine vivre chez sa mère Laetitia qui, nous avons eu déjà l'occasion de le dire, ne supportait pas la concurrence. Donc les relations belle-mère-belle-fille vont vite tourner au vinaigre. Alors Serge, plutôt que d'affronter sa mère, choisit courageusement de les laisser se débrouiller entre elles. Nous sommes en 1943 et n'oublions pas que Serge était toujours de nationalité italienne, avec le risque de se faire réquisitionner à tout moment par le pouvoir italien. Et ce n'est pas tout. Le STO devenait un risque de plus en plus grand, car les nazis devaient compenser le manque de main-d'œuvre dû à l'envoi d'un grand nombre de soldats allemands sur le front de l'Est, où là, la situation ne cessait de se dégrader. Alors prudent, Serge alla se réfugier avec Jeannine et ses parents en Haute-Marne, dans une maison appartenant à la belle famille de Simone Signoret, jusqu'à la Libération.
Olivier Nage, merci. Nous arrivons à la fin de cette 5e émission sur les 7 vies de Serge Reggiani. Alors dites-nous en quelques mots ce que vous allez aborder dans la prochaine émission.
Je vais continuer à exposer sa 4e vie de comédien et sa 5e vie d'acteur de cinéma qui vont s'entremêler. Alors à très bientôt sur cette antenne.
Oui, à très bientôt. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent en savoir plus sur votre spectacle Hommage à Serge Reggiani, un comédien qui chante, et retrouver les émissions précédentes en allant sur le site www.atoutboutdechant.com. C'était les 7 vies de Serge Reggiani par Olivier Ninge. Accompagnement musical, Marc Evea et Clément Péfert. C'était une émission produite par atoutboutdechant.com.